Vous êtes sur RTL. 15h, 15h30.
On est fait pour se détendre sur RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour se détendre, c'est la dernière. Vous savez, c'est ce volet détente, effectivement, et culture que nous vous avons proposé donc chaque jour pendant une demi-heure sur l'antenne d'RTL. Pour cette dernière, Romain Nigita, donc journaliste spécialiste des séries, va nous retrouver pour nous proposer une sélection donc de séries rétro. Mais pour l'heure, je crois que Grégory Cohen, le chef Grégory Cohen, est en ligne avec nous. Bonjour Grégory. Est-ce que Grégory Cohen est là ? Ah, bah oui, ça va et vous ?
Bah ouais, ça va super.
Bon, on va commencer en gourmandise, justement, car on s'est dit qu'on allait terminer en beauté. La semaine dernière, je vous ai demandé une recette au chocolat et vous avez répondu présent, justement, avec la recette d'un fondant. Et on est en train de se retrouver pour la dernière dont on est fait pour se détendre. On sait à quel point la cuisine a été importante pendant cette période de confinement.
Ah oui, ça a été un réconfort absolu, je pense, pour tout le monde. Ça a été le moyen de se retrouver en famille, le moyen de partager, le moyen de faire plaisir, et puis le moyen aussi de tester des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire avant. Donc, la cuisine, ça a été essentiel, je trouve.
L'avantage de la cuisine, c'est aussi qu'on peut la faire en famille. Est-ce que certains ont découvert justement ont découvert ce lien familial ? J'imagine que vous avez grandi comme ça, non ?
Moi, j'ai grandi dans le restaurant de mes parents. Donc, j'étais entouré de cuisine dans le restaurant de mes parents. Et en plus, j'avais ma maman qui cuisinait super bien, ma grand-mère qui cuisinait super mal, mais c'était tellement génial de l'avoir cuisiné à chaque fois et de faire tous ses efforts. Et de son côté, du côté de ma grand-mère, j'ai ma tante, Tata Janine, qui, elle, est le cordon bleu de la maison, celle qu'on appelle à tout moment, mais qui nous donne des recettes approximatives. Vous savez, les recettes où on lui dit, mais comment tu fais ça, Tata? Elle dit, bah, je mets un peu de ça, et puis un peu de ci, et puis voilà, ça devient ça. Donc, jamais facile à refaire, hein, ce genre de recette.
Non, mais en même temps, ça, c'est toute la magie aussi de la cuisine. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'avec de la poudre de perlimpinpin, on peut faire des choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'aime, moi, c'est la cuisine qui est libre aussi. C'est-à-dire que moi, je voyais ma grand-mère faire, et par exemple, elle n'avait jamais toujours les doses. En tout cas, elle connaissait les siennes, elle ne suivait pas toujours les recettes sur les livres. Et tout à coup, ça avait la pâte et le goût, je dirais, de ma grand-mère.
Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui fait que c'est exceptionnel, d'ailleurs. Et c'est ça qui fait aussi que c'est très difficile, du coup, de retrouver ces recettes qui nous plaisaient tant. D'abord parce que je pense qu'aussi, c'était parce que c'était votre grand-mère qui faisait cette recette.
Oui, vous avez raison, quand c'est fait avec amour.
Et que vous la voyez faire. Ouais, exactement. Et puis après, peut-être parce que quand vous la dégustiez peut-être avec des gens que vous aimiez autour de vous. Ce qui fait que il y a eu tout ça qui est venu enrichir votre goût. Développer vos sens autour de tout ça, et c'est vrai que c'est pour ça que ces recettes-là, c'est un peu les recettes, les madeleines de Proust qu'on a du mal à refaire ou à retrouver.
Mais est-ce que l'on peut effectivement de temps en temps aussi faire, vous savez, prendre un chemin de traverse par rapport à la route finalement d'une recette ?
Ah, la cuisine, c'est pour moi, c'est jamais un carcan. Ça doit pas être un carcan.
Ça.
La cuisine, c'est un espace de liberté où on s'exprime chacun avec sa sensibilité, où on met ses goûts. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bateau de dire la cuisine, c'est quoi l'ingrédient secret, c'est l'amour. Mais en réalité, c'est réellement ça, parce que si on le fait avec amour et avec générosité, on va transmettre ça. Donc, y a des exemples, il y a 50 milliards d'exemples sur... par exemple, j'ai fait des boulettes, des boulettes de viande avec ma fille qui a 7 ans, et donc j'ai envoyé la photo dans un groupe avec tous les cousins, et immédiatement ils m'ont tous envoyé leur recette. Il y a aucune recette qui correspondait à celle que je faisais. Pourtant, on a tous mangé les mêmes boulettes au même moment, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une question, je dirais vraiment de on s'empare des recettes. Et vous savez, c'est un petit peu comme le téléphone arabe. C'est-à-dire que de génération en génération, il y a une recette qui circule et qui n'est jamais véritablement toujours la même. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Bah oui, évidemment. Et en plus, c'est souvent à partir d'erreurs ou alors d'incompréhension qu'on va réussir. Il y avait une histoire qui était exceptionnelle, moi, que je trouvais fabuleuse. C'était Alexandre Arcadi qui était avec sa femme. Et ils vont chez le boucher et il achète... sa femme demande une épaule d'agneau et elle demande au boucher de la casser en deux. Alors il la regarde, il lui dit mais pourquoi tu veux casser cette épaule d'agneau en deux ? Elle dit bah parce que c'est la tradition, c'est normal, ma mère fait comme ça. Il dit ah bon, bon, il voit sa belle-mère, il dit je comprends pas l'histoire de l'épaule d'agneau, pourquoi vous la cassez en deux ? Elle dit ah, parce que c'est la tradition, ma mère faisait comme ça. La grand-mère était vivante, il va la voir et il lui dit mais pourquoi ? Et elle lui dit mais mon fils, en Algérie les fours ils étaient tout petits.
C'est dingue.
Et oui, et donc on pense que c'est de la tradition alors que parfois c'était juste parce qu'on pouvait pas faire autrement.
Pour des raisons pratiques, quoi. Non mais c'est joli.
Ben ouais.
Et tout ça s'explique. Alors, vous êtes venu donc avec une recette qui n'a rien à voir, qui est une recette du fondant au chocolat.
Rien à voir avec là.
C'est ça.
Exactement.
Là, on revient chez nous, on revient aujourd'hui avec une recette de fondant au chocolat. Alors, vous allez nous donner les ingrédients de votre fondant et on va vous retrouver avec la recette juste après. Donc, j'imagine que j'ai besoin des chocolats. Mais quel chocolat ?
Oui, alors c'est vraiment une recette. Alors, moi, je prends du 70% parce qu'il a un caractère brut, mais en fait, c'est bon. Il faut savoir se faire plaisir.
Ouais.
Donc, il nous faut 110 g de chocolat noir, 60 g de beurre, 3 œufs entiers à température, 50 g de sucre ou de sucre cassonade, 45 g de farine et 2 pincées de fleur de sel.
D'accord, c'est tout.
C'est tout.
Eh bien, on se retrouve dans un instant sur RTL et vous allez nous livrer donc la recette de votre fameux fondant au chocolat tout de suite.
Ah mince, vous m'avez entendu.
Bah oui, on vous a entendu, vous connaissez la chanson par cœur. Non mais on va vous inscrire à...
J'adore cette chanson.
Mais on va vous inscrire à un télécrochet sur M6, vous, c'est quand même extraordinaire. Alors, on se retrouve dans un instant avec votre recette de fondant au chocolat.
Flavie Flamand, on est fait pour se détendre sur RTL.
Et vous savez, il ne faut jamais rien faire quand vous êtes à la radio, Grégory Cohen, parce qu'on entend tout et on vous a entendu chanter.
Voilà.
Non, mais c'est génial. Mais c'est beau aussi de faire de la cuisine en chanson, non ?
Ah bah, c'est évident, mais de toute façon tout ça est lié. C'est le plaisir de chanter, le plaisir de danser, le plaisir de cuisiner, le plaisir de vivre, c'est normal.
Ça doit être trop bien dans votre cuisine. Bon, alors, donc, les ingrédients, on les a. Comment est-ce que je fais ce fameux fondant au chocolat avant que Romain Nigita nous rejoigne pour nous parler de série ?
Alors, c'est super simple, Favie. On va démarrer par faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie ou alors au micro-ondes. Si on le fait au micro-ondes, on le fait par petites touches de 15 secondes pour éviter de le brûler. Et ensuite, on va le réserver, c'est-à-dire on va le poser et on va le mettre de côté le temps qu'il tiédisse.
D'accord.
On va fouetter dans un cul de poule ou alors dans un bol, hein, c'est parfois plus simple, les œufs et le sucre. Ils vont quasiment blanchir et doubler de volume. Ensuite, on va verser ce mélange beurre, chocolat sur les œufs, le sucre. On va mélanger le tout. On doit obtenir un mélange bien lisse et brillant. On ajoute ensuite la farine tamisée et la fleur de sel en une fois et on mélange à nouveau au fouet. La préparation doit être homogène, c'est-à-dire sans grumeaux. On va filmer ensuite au contact. Alors ça veut dire filmer avec un film alimentaire directement sur l'appareil au chocolat.
D'accord, ok.
Et ben filmer au contact, ça veut juste dire qu'il faut mettre un film alimentaire et qu'on le colle contre l'appareil au chocolat qui est pas d'air. Et ensuite, on le place 30 minutes au réfrigérateur. Ça va permettre au chocolat de se raffermir un peu. Pendant ce temps-là, on va chemiser. C'est un autre terme. Ça veut dire tout simplement beurrer et fariner les contenants de son choix. Alors, soit des cercles de 7 cm de diamètre, soit des ramequins. Et il faudra ensuite retourner et tapoter le ramequin ou le cercle de manière à retirer l'excédent de farine. Vous savez, comme ça, on a juste le beurre et juste ce qu'il faut de farine autour. On préchauffe son four à 200 degrés en chaleur tournante. Verser la pâte qui aura reposé dans les contenants et on les remplit aux 3/4. On les remplit pas en entier parce que ça va gonfler.
Bah oui.
On cuit pendant 7 à 10 minutes. Alors le temps de cuisson, il va varier Flavie en fonction de son four. Alors vu que c'est rapide, moi je préconise d'en faire un premier pour vérifier la bonne durée.
D'accord.
Et ensuite, on fait tous les autres. Une sous-cuisson, ça vaut mieux qu'une sur-cuisson. Et en fait, voilà, après, c'est tout. Au bout de 7 à 10 minutes, on a un résultat dingue, démoniaque, gourmand, régressif. Et l'effet, lorsque le chocolat coule dans son assiette, c'est un dessert qui a tout pour plaire. Et moi, j'ai un truc en plus, si vous voulez, pour changer un peu les saveurs. Quand on coule le chocolat dedans, on peut ajouter un carré de caramel ou alors un carré de chocolat blanc ou alors même une petite boule de vanille. Et du coup, on aura plein de goûts différents avec la même préparation.
Oh là 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 ! Vous pouvez pas nous les faire carrément, en fait ?
On est bien là. Ah bah quand vous voulez,
évidemment. Et on viendra chanter du Paolo Conte dans votre cuisine, d'accord ?
ou à l'envers. Je vous les amène à la radio dès qu'on pourra.
Ah mais trop bien. Alors dès qu'on sort, non mais je vous assure, hein, on prend date et on fera des photos dès qu'on sort du confinement. On va attendre les allocutions du président Macron, mais préparez votre chocolat. Bon, je sais que vous aimez les séries, hein, Grégory Cohen. Donc on va accueillir, si vous le voulez bien, Romain Nigita. Ah Romain, je suis bien content de vous entendre.
Bonjour, bah moi aussi je suis ravi d'être là. Bah, j'ai déjà l'eau à la bouche avec le Nikki au chocolat. Ça me donne bien envie également.
Bah oui, vous m'étonnez, vous êtes un gourmand vous, en dehors des séries?
Oh là, malheureusement pour moi.
Vous êtes journaliste spécialiste des séries, on vous retrouve dans le JDD et dans Téléstar. Vous êtes co-auteur avec Anna Carazé du livre Séries Anatomy aux éditions Fantasque. Et aujourd'hui on va parler des séries rétro. C'est quoi une série rétro?
Alors une série rétro, c'est une série qui joue sur les clins d'œil d'époque qu'on a pu aimer, qu'on a vécu ou pas, mais dont on a des souvenirs, soit par des films, des chansons, par la mode, par les vêtements, les jeux vidéo. Et y a de plus en plus de séries qui jouent là-dessus. Et la première dont je voulais vous parler, c'est une série qui a vraiment un peu relancé ce type de série-là, c'est Stranger Things, qui est diffusée sur Netflix depuis 2016. C'est une série qui passe dans les années 80. Donc on retrouve tous les éléments des années 80 et surtout des films fantastiques des années 80, les films faits par John Spielberg, Kaminsky, ou des films qu'il a produits comme les Goonies et Gremlins. Donc forcément, on a une bande de gamins, c'est eux les héros, comme les gamins à vélo de E.T. Il se passe des choses très bizarres dans leur ville. Il y a un laboratoire étrange qui fait des expériences. L'un d'eux disparaît. Et au même moment, il y a une petite fille avec des pouvoirs de télépathie qui apparaît. Donc tout ça, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Et cette ambiance des années 80 est en plus reproduite dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une série qui est tournée aujourd'hui avec des caméras numériques dernier cri. Mais sur l'image, on va appliquer un filtre qui donne une image vintage, comme si c'était la pellicule des années 80. Même chose pour la musique. C'est une musique qui...
on l'entend là.
Ça reproduit vraiment, par exemple, les musiques des films de John Carpenter dans les années 80. On a, comme je le disais, plein de références. Les gamins jouent à Donjons et Dragons, le jeu de rôle sur plateau. Ils jouent à des jeux vidéo Atari. On a les gamins qui se baladent dans un centre commercial qui est vraiment très important dans la troisième saison, centre commercial qui est vraiment un peu l'emblème des années 80. Puis on a également des acteurs qui nous rappelle les années 80. La mère de l'un des petits garçons, c'est Winona Ryder, qui est évidemment jouée dans Beetlejuice, dans Edouard aux mains d'argent. Dans la saison 4, qui est en train d'être tournée et qui arrivera bientôt sur Netflix, on retrouvera Robert Englund, c'est celui qui jouait Freddy Krueger dans les films d'horreur des années 80. Donc on a vraiment tout cet ensemble de clins d'œil et de mise en scène qui rappelle cette époque.
Alors, on va se retrouver dans un instant, quitter les années 80 et la culture pop. On va accueillir Cécile aussi sur cette antenne et poursuivre notre conversation à Grégory Cohen. À tout de suite.
RTL.
Périple. On est fait pour se détendre sur RTL.
Flavie Flamand.
Romain Nigita, on parle des séries rétro. On ne peut pas ne pas penser à Happy Days qui est disponible en DVD aujourd'hui. Il y a Grégory Cohen qui nous écoute. Je suis sûre qu'il est en train de chanter le générique.
C'est sûr que Happy Day, c'est la reine des séries rétro, c'est quasiment celle qui a inventé le genre, puisqu'elle se passe dans les années 50 et au début des années 60, mais en fait elle a été tournée dans les années 70 et 80. Ça démarre en 74 aux États-Unis, ça dure 11 saisons, 255 épisodes quand même, et en France ça arrive dès 1976, à une époque où en France on voit finalement assez peu de sitcoms américaines, et finalement si on voit celle-là, c'est parce qu'elle joue sur un peu l'image d'Épinal des États-Unis, on a les lycéens, les jukebox, les motos, etc. Alors dans toutes les autres séries comiques de l'époque aux États-Unis, on parle plus de problèmes sociaux et ça parlait pas trop des spectateurs français de l'époque. Donc si on voit celle-là, c'est que Happy Day, c'est l'adolescence de Richie Cunningham qui vit dans la ville de Milwaukee, dans Wisconsin, une ville moyenne près de Chicago. Donc on est dans une ville un peu ordinaire. Il vit avec sa sœur, avec ses parents et avec l'un de ses amis, évidemment Fonzie. Fonzie le motard qui va prendre de plus en plus de place dans la série au fur et à mesure des saisons. Ce qu'il faut quand même savoir, qu'au départ, Fonzie le motard, il n'avait pas son fameux blouson de cuir. Le blouson de cuir auquel on associe Fonzie, la chaîne ne voulait pas qu'il ait un blouson de cuir car ça aurait donné une image un peu trop violente, selon elle, une image de Hell's Angel. Et finalement, le blouson va apparaître bien après le lancement de la série.
Et puis, alors, une série, moi, qui m'a fait pleurer, que j'ai adoré. On va demander à Grégory Cohen s'il l'a vu, c'est This Is Us. Vous connaissez Grégory?
Ouais, elle est magnifique, j'adore.
Vous avez pleuré? Ouais.
J'ai pas pleuré, mais il y a eu de l'émotion quand même.
Attends, alors en voilà une série, on peut le dire, hein, Romain Nigita, hein, une série hyper émouvante avec des valeurs sur l'histoire d'une famille et sur plusieurs décennies. C'est presque une saga familiale en fait.
C'est exactement ça, c'est une série, alors je suis d'accord avec tous les deux, c'est une série absolument formidable, c'est une série qui nous fait voyager dans le temps quasiment, même si ça n'est pas de la science-fiction. On en est déjà à la saison 5, on peut la voir sur Canal Plus Série en France. Et en effet, c'était l'histoire d'une famille, les parents et les enfants, les trois enfants qui sont adultes de nos jours. Et en parallèle, on suit l'histoire de leurs parents quand ils se rencontrent dans les années 70 et lors de la naissance de leurs enfants dans les années 80, quand ils grandissent dans les années 90. On a tout ça en parallèle, c'est que des fois, ça crée même des petits mystères. On ne sait pas pourquoi certaines choses sont arrivées. On sait qu'un personnage est mort, mais on ne sait pas comment. On le découvrira au fur et à mesure, mais on en voit déjà les conséquences dans le présent. Et il y a également une dimension très importante, c'est que dans les trois enfants de la famille, en fait, l'un des trois est adopté et il est noir dans une famille de blancs. Et aux États-Unis, évidemment, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, ça n'est pas anodin. Et c'est une des dimensions très importantes de cette série, notamment dans les épisodes les plus récents qui parlent du mouvement Black Lives Matter, de ce personnage qui s'appelle Randall, qui remet un petit peu en cause sa propre famille, puisqu'il essaie de découvrir qui sont ses parents biologiques. Et donc, on a l'évolution comme ça des États-Unis à travers les époques, puisque le père lui-même, on découvre qu'il a été soldat au Vietnam. On a également des références, évidemment, à la pop culture, à la musique, puisque la mère est passionnée de chansons. La fille, dans les années 90, est fan de Buffy contre les vampires. Elle écoute Alanis Morissette. Donc voilà, on a à la fois ce côté dramatique, familial, ultra émouvant. Chacun rencontre des problématiques auxquelles on peut s'identifier, que ce soit la famille, les enfants, le travail, l'adoption, etc. Et cette histoire de l'évolution sociale des États-Unis.
C'est une très très belle série. Une dernière rapide de votre choix, Romain Nigita, pour la route.
Une dernière rapide, Why Women Kill, qu'on peut voir sur la plateforme Salto et qu'on a vu il y a quelques mois sur M6. C'est la nouvelle série du créateur de Desperate Housewives. Et là aussi, il parle surtout des femmes, des épouses, mais là, à travers le temps. Puisqu'en fait, là aussi, on suit trois personnages à trois époques différentes, trois femmes qui habitent dans la même maison, mais à des époques différentes. L'une vit dans les années 60, l'autre dans les années 80 et la dernière à notre époque. Celle des années 60 est trompée par son mari. Celle des années 80 découvre que son mari est en fait homosexuel. Et celle qui vit à notre époque va tenter l'expérience du trouble, donc avec son mari et avec une autre femme. Les trois histoires vont mal se finir pour des raisons différentes.
Vous nous divulgâchez le truc?
Ah mais c'est le point de départ de la série, c'est le titre Why Women Kill, pourquoi est-ce que les femmes tuent? Et bien là, on va le savoir.
Et ça a été d'ailleurs diffusé récemment en Prime sur M6, hein, cette
série. En Prime sur M6, c'était pendant le premier confinement d'ailleurs, et ça a plutôt bien marché. Et la saison 2 est actuellement en tournage, et là, ça se passera notamment en 1949. Donc on revient encore plus dans le temps.
Et dites-moi, je pense à la cuisine, Grégory Cohen, elle est rétro parfois aussi, la cuisine?
Oui, on les retrouve, et puis c'est drôle de voir que dans les cuisines qu'on voyait dans les émissions, j'ai revu aussi, tiens, il n'y a pas longtemps, Ma sorcière bien-aimée, et toutes les scènes où elle était avec sa mère et où elle se planquait pour discuter, c'était dans la cuisine, avec son petit tablier, qui était assez drôle parce qu'elle était pourtant super moderne.
Et vous en regardez des séries, vous, hein Ma sorcière bien-aimée.
Il y en a une que je trouve fabuleuse, c'est Cobra Kai. Vous connaissez, Flavie?
Non, Cobra Kai. Pas du tout, c'est quoi?
Ah ben je vais laisser le spécialiste des séries en parler, mais c'est génial.
C'est une série qui joue également sur la nostalgie, puisqu'en fait c'est la suite des films Karate Kid. Vous vous souvenez peut-être de ces films des années 80 qui étaient sur un jeune qui faisait du karaté. Et ben c'est la suite avec les mêmes personnages, les mêmes acteurs, mais de nos jours où le gamin et son ennemi de l'époque sont devenus adultes et vont à nouveau s'affronter, puisque son ancien ennemi va monter une nouvelle école de karaté. Et là aussi on a plein de clins d'œil dans la musique, dans les flashbacks par rapport au film. Donc là aussi, on est en plein nostalgie des années 80, c'est une très bonne série, et on peut la voir sur Netflix, les deux premières saisons, il y a la troisième qui arrive en début d'année prochaine.
Et Grégory Cohen, vous regardez des séries dans votre vie ou vous faites la cuisine?
Ah mais j'adore. Je vais vous dire, avec Netflix, Prime
Salto,
ou Apple, maintenant,
Salto, maintenant
c'est Salto, c'est un truc de fou.
Ouais.
On
c'est
a
vrai
tout.
Qu'on est servi.
C'est exceptionnel. On n'a plus rien envier aux États-Unis.
Et ça fait un bien fou, justement, de regarder des séries en cette période parfois compliquée. Merci à vous deux. Merci Grégory Cohen. Je rappelle donc votre page Instagram sur laquelle on vous retrouve. Et puis les 60 classiques de la pâtisserie au Nutella, c'est aux éditions Larousse. Merci d'avoir été avec nous pendant ce confinement, Grégory, et pour en effet. fait pour se détendre. On vous recevra bientôt aussi pour les fêtes de Noël.
Un vrai plaisir.
Je vous embrasse, Grégory. Merci à vous. Romain Nigita, merci, journaliste spécialiste des séries. On vous retrouve dans le JDD, dans Téléstar, et puis le livre avec Alain Carazé, Séries Anatomie. Exactement, aux éditions Fantasques. À la prochaine. Salut Romain Nigita. Merci. Et c'est donc aujourd'hui, à quelques heures des nouvelles annonces d'Emmanuel Macron, que nous allons donc refermer le fameux chapitre On est fait pour se détendre. Demain, notre émission reprendra sa formule traditionnelle, une heure de conversation et de partage avec vous en direct, donc sur l'antenne d'RTL. Merci à tous ceux qui ont fait d'On est fait pour se détendre un rendez-vous informatif et joyeux quotidien, les journalistes spécialisés, sans oublier tous les chefs aussi, qui nous ont délivré leurs fameuses recettes. On se retrouve donc demain dès 14h30. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À demain.
Flavie Flamand, on est fait pour se détendre sur RTL.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.